52e congrès de la FPI Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.
Vous êtes ici en direct du 52e congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers. Il est 13h50. On est ravis d'être avec vous. On a bien sûr depuis ce matin égrené dans des circonstances un peu particulières puisqu'on est à l'aube d'une recomposition de l'Assemblée nationale, vote qui aura lieu pour le premier tour le 30 juin. Et le 8 au matin, nous aurons une nouvelle Assemblée nationale. On va parler ici de cette urgence logement. C'est le mot d'ordre de ce 52e congrès. Et on va en parler avec des personnalités emblématiques qui ont durablement marqué aussi notre époque en matière immobilière. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Un grand monsieur de l'immobilier est avec moi sur le plateau. C'est André Hiché.
Bonjour, cher ami.
Bonjour, André. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis très honoré que vous soyez là, parce que vous allez nous éclairer de votre science. Vous avez une très longue expérience dans ce métier. Vous étiez à la tête de la Banque des Territoires. Aujourd'hui, vous représentez Hiché Conseil, d'ailleurs une entreprise de conseil, parce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ne s'arrêtent jamais. Et cette expérience est un capital formidable. Et ce serait bien que parfois on se le rappelle. André, on vit un moment particulier. On ne peut pas s'en cacher. Même si on ne fait pas de politique politicienne, l'aménagement du territoire, l'immobilier, la construction de la ville est éminemment un acte politique. Vous voyez aujourd'hui la situation actuelle, c'est quoi votre premier sentiment avec l'expérience que vous avez ?
Écoutez, ma première certitude, c'est qu'au lendemain du deuxième tour des élections, probablement le paysage politique aura évolué, plus ou moins significativement, probablement assez significativement. Il y a au moins un aspect de la situation qui n'aura pas évolué, c'est que les problèmes de fond resteront toujours les mêmes. Et donc, quelles que soient les équipes qui prendront la suite, il faudra bien prendre à bras le corps les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés aujourd'hui. Alors bien sûr, ici, on parle beaucoup de la crise du logement, mais en réalité, je voudrais souligner deux points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que c'est pour une grande partie une crise de l'immobilier en général et de l'urbanisme. Il suffit de voir le problème de la vacance des bureaux, le problème de la nécessaire reconversion des centres commerciaux et des zones d'activité, le fait que l'État lui-même se prépare à se délester de 25% des surfaces tertiaires qu'il occupe, pour comprendre que cette difficulté est globale. Et au-delà même de l'immobilier, quand on analyse par exemple la cause profonde de la désaffection d'un certain nombre, 5 millions de mètres carrés en Ile-de-France quand même, de bureaux vacants, quand on regarde les difficultés en gros du quart des grands centres de distribution commerciale, eh bien on voit bien que derrière tout ça, c'est finalement les technologies numériques, Amazon, c'est le travail à distance, qui impactent profondément cette économie, sauf que cet impact des technologies numériques, il touche tous les aspects de la vie sociale et économique. Et donc la crise du logement, la crise de l'immobilier, n'est jamais que le révélateur exacerbé d'une crise profonde. Et tout notre problème, c'est d'arriver à bien comprendre l'enchaînement de crises conjoncturelles, les taux d'intérêt, la hausse des coûts des facteurs de production, de l'énergie, des matériaux, etc., avec une crise structurelle plus grave qui peut durer plus longtemps, qui est liée, bien sûr, à ces changements technologiques, qui est liée aussi, probablement, à l'épuisement, je dirais, de notre modèle métropolitain, qui est un modèle finalement monocentrique et qui est un modèle de spécialisation spatiale. Or, ce qui est en bout de course aujourd'hui, c'est ce modèle polycentrique et spécialisé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on a découvert les limites, la saturation du système de transport collectif. C'est ça qui constitue, me semble-t-il, une base de réflexion tout à fait essentielle. Après, on pourrait développer d'autres aspects tout aussi importants qui tiennent au fait que nous, comme nous sommes entrés maintenant, et tout le monde en a pris conscience, dans une économie de l'endettement et notamment de la dette souveraine, la valeur des actifs est plus liée au fond à la politique monétaire, non plus tellement de l'État, mais en tout cas des grands ensembles régionaux, en l'occurrence la banque, le système de banque centrale européen, qui détermine finalement les flux de liquidités, donc la valorisation des actifs, indépendamment de leur valeur économique réelle, c'est-à-dire de leur valeur d'usage. Et ça, ça doit nous amener à une réflexion profonde sur finalement la régulation des marchés qui portent sur des ressources rares. Je pense par exemple au foncier constructible.
André, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous prenez de la hauteur dans la vision...
C'est normal, vous connaissez mon passé d'aviateur. mon réflexe.
Vous savez ce que disait Louis XIV ? Quand on prend trop de hauteur, on finit par ne plus être vu.
Bon, c'est pas faux.
Mais
c'est pas faux.
Alors, c'est intéressant parce que je voudrais vous poser une question. C'est pas une question piège, mais comment on fait pour résoudre, André, le problème de la démographie? Comment on fait pour... Alors, je souscris à ce que vous dites. Pour ne pas aller sur des terres arables, sur effectivement limiter...
Si vous me permettez,
oui,
sur cette question... Ne pas aller sur les terres arables, bon, certes, c'est un enjeu. On va dire que d'une manière générale, la fin de l'étalement urbain est souvent présentée sous l'angle d'un enjeu écologique.
Oui,
je voudrais souligner que c'est peut-être autant et peut-être avant tout un enjeu de finances locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas révéler des aspects confidentiels, mais quand on a des réflexions sur l'avenir à 10 ans d'un nombre important de collectivités territoriales de tous niveaux, on voit bien qu'à 10 ans, la fiscalité, bien sûr, et les ressources territoriales sont extrêmement tendues et très souvent dans le rouge. Et donc, la période où on pouvait financer l'étalement urbain, l'étalement des réseaux, est derrière nous. Et il suffit de prendre l'exemple de l'alimentation en eau potable, où on sait très bien que, selon les endroits, on a entre 20 et 40% de pertes d'eau potable dans les réseaux. Ça, on le sait depuis 30 ans. On n'a pas eu les ressources nécessaires pour régler ce problème. On voit bien que cette question-là illustre le fait que l'étalement urbain, pour des raisons de finances locales et pour des raisons économiques, est aussi arrivé à une fin.
D'accord, d'accord, voilà. D'accord.
Alors, il reste la
Comment
démographie.
On fait pour loger les personnes. Parce que si je suis votre raisonnement et je vais faire le néophyte. Et vous me rectifiez en fonction. On a des flux de population qui explosent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a une augmentation volumétrique de la démographie. Je prends par exemple les problématiques de décohabitation, de mobilité. Est-ce que ça veut dire que si je tiens compte de ce que vous dites, on n'est plus sur cet étalement spatial, mais donc sur une densité très centralisée d'hypermétropolisation? C'est ça que ça veut dire? En fait, on va tous vivre au même endroit.
Moi, ce que je pense, c'est que d'abord, quoi qu'on en dise, et en dépit des difficultés ponctuelles qu'on peut subir, la dynamique démographique, quand elle existe, quand il y a un véritable dynamisme, c'est finalement une garantie d'avenir. Une garantie d'avenir pour une société. On sait bien aujourd'hui, par exemple, que la très puissante Chine, qui menace d'écraser finalement la production industrielle de l'Occident, en réalité, elle est elle-même menacée par une crise démographique dramatique qui peut conduire on ne sait où. Bon. Donc, ne considérons pas que finalement l'extension démographique est un problème point final. Elle n'est pas qu'un problème, elle est aussi une chance et une solution. Alors, comment le traiter? Je pense que ça va se traiter par le fait que dans le tissu métropolitain, on va assister à une série de transformations, de reconfigurations qui aboutiront d'ailleurs à une plus grande mixité fonctionnelle des usages. Ça, c'est évident, pour les raisons que je énoncées tout à l'heure. Deuxièmement, on va aussi avoir, du fait du télétravail, qui ne présente pas que des avantages, tant s'en faut, mais enfin qui est une donnée avec laquelle il faut compter aujourd'hui, on va quand même assister aussi au développement de travailleurs, de salariés qui s'installeront, vous savez, dans les anciennes villes royales qui entouraient la capitale, etc. Et finalement, on va assister de ce point de vue à la réémergence de ce que l'ancienne Datar appelait les métropoles d'équilibre. Voilà. Il n'en demeure pas moins que les métropoles elles-mêmes continueront à jouer leur rôle de capitale régionale et surtout de hub des échanges internationaux, de l'économie mondiale. Mais dans ce cadre-là, on doit aller vers une densification et une recomposition urbaine. En réalité, c'est tout notre urbanisme qu'il faut repenser. J'ai étudié de près trois épisodes fondamentaux du renouvellement urbain. Le premier, c'est les travaux d'Haussmann. Je rappelle, 60% de la superficie de Paris expropriée.
Exact.
18 000 immeubles sur 30 000 abattus.
30 000.
Et remplacés par 30 000 nouveaux.
En 17 ans.
Voilà, 20 ans en gros. Oui, c'est ça, 17 ans. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, et alors au passage, 500 km de tout à l'égout et d'adduction d'eau et 65 km de grande voirie.
Une formidable réussite.
Formidable. On pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a que quelques minutes. Deuxième épisode, la reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale. Troisième épisode, les villes nouvelles. Dans ces trois épisodes-là, vous avez une séquence commune qui se reproduit systématiquement. Destruction de la valeur des actifs, remembrement foncier, densification, recréation de valeur. Voilà. Et donc, il faut penser le modèle de renouvellement urbain et de transformation des actifs qui est notre avenir dans cette perspective-là. Destruction de valeur, il faut ramener la valeur du foncier, la valeur des actifs existants à des niveaux parfois proches de zéro, toujours en tout cas significativement diminués. Il faut inventer des modes de remembrement foncier à travers des opérations multisites. On ne peut pas faire du Haussmann, évidemment, en 2024. Et c'est ce qui entraînera un processus de densification et de recréation de valeur, c'est-à-dire le redémarrage de l'économie immobilière et de l'industrie, évidemment, de la promotion en particulier.
Dernière question, André. Alors, je sais qu'on ne va pas faire de la politique politicienne, mais ce qu'on vit aujourd'hui, dans notre 5e République, à 15 jours des JO, c'est inédit. Hein.
Oui, c'est inédit. Après, enfin, encore que, si vous voulez...
C'est quoi votre analyse sur les troubles potentiels placés dans les populations avec les forces en présence qui se dégagent?
Oui. Écoutez, en termes de situation dramatique, je pense que la situation du 10 mai 1940 était quand même pire que celle-là. Et les semaines qui ont suivi étaient quand même plus graves. Bon, sous l'angle des bouleversements, des changements politiques, je crois que l'arrivée du Second Empire 1952, Napoléon III, dans des circonstances qui étaient quand même aussi un peu tendues. Bon, voilà. Donc il faut aussi relativiser les choses. Il faut relativiser les choses. Dans cette affaire-là, comme je vous le disais, ce dont on peut être sûr, c'est que le 8 juillet, les problèmes concrets dont nous sommes en train de parler seront les mêmes. Et les solutions à apporter, à mon sens, ne seront pas très différentes, si on veut bien être réaliste, de ce que j'évoque aujourd'hui et qui passe par des tas de pistes. Par exemple, le recours à l'économie sociale et solidaire pour développer un certain nombre d'activités.
Bien sûr.
Voilà, des choses comme ça. Troisièmement, il y a une réalité dans notre pays qui est souvent critiquée et qui ne présente pas que des avantages. Mais comme souvent dans la vie, il y a parfois aussi quelques avantages qui vont avec les inconvénients. Et cette réalité-là, c'est l'existence de l'État profond. C'est-à-dire, en toutes circonstances, l'État qui continue à travailler et à assurer la continuité. C'est parfois cet État-là qui freine finalement un certain nombre de changements. C'est à ce titre-là qu'il est vilipendé, peut-être, certainement même. Il n'en demeure pas moins que dans les périodes difficiles, tendues, je crois qu'il existe un état profond positif qui assure précisément la continuité de l'intérêt national. Voilà. Et pour ma part, après un demi-siècle passé blanchi sous le harnois, comme on dit, ou bien de la fonction militaire, de la fonction publique plus en général, et puis de mes activités pour 25 ans au sein de la Caisse des dépôts, je ne peux pas m'empêcher de participer de cet état profond.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, André Hichet. Il faut venir plus souvent. Et on aurait bien tendance à dire les choses. Et vous me permettrez une petite citation de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait « Il existe deux sortes d'hommes, les crédules et les incrédules. » Il disait parfois « La crédulité des gens d'esprit, c'est qu'ils voient le monde tel qu'il pourrait être. » Et l'incrédulité, parfois le défaut des lâches qui ne voient dans le monde que ce qui est. C'est pourquoi les premiers sont téméraires et les autres pusillanimes. Vous êtes définitivement un téméraire, André Hichet.
Peut-être, et je vous renverrai la balle en vous citant Alfred de Musset. Le mal des gens d'esprit, c'est leur indifférence, et celui des gens de cœur, leur inutilité.
J'aime beaucoup. Merci André Hichet. Hichet Conseil, un grand patron de l'immobilier qu'on se paie toujours à écouter. On est au 52e congrès. On se retrouve dans quelques instants.
52e congrès de la FPI, Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.